La tempête apaisée, les disciples donc dans la barque submergée par les vagues, Jésus qui dort à la poupe sur un coussin, et les disciples réveillent, Jésus menace le vent et la tempête, et un grand calme se fait. Récit de tempête apaisée, le sens global, je comprends à peu près. En effet, on le sait, la mer, dans la Bible, représente l'épreuve, le mal, la mort, la difficulté, et je me vois très bien dans cette situation, même si je ne suis pas un grand marin. Néanmoins, nous naviguons sur notre vie comme nous pouvons, en essayant d'éviter les écueils. Et parfois, dans notre vie, les événements se deviennent bouillonnants, menaçants, menacent de perdre notre équilibre, notre joie, notre bien-être, notre confiance. Et tout à coup, nous pouvons perdre confiance. Nous avons peur de nous perdre, d'être submergés et de perdre notre vie. Et donc là, oui, certainement, Jésus peut nous venir en aide avec en plus cette théologie propre à l'Ancien Testament qui est que dans l'Ancien, on croyait que Dieu intervenait vraiment dans la vie des gens. Donc quand le peuple face à la mer, avec Moïse, ils se disent « on ne va pas y arriver, on va perdre pied, on va se perdre » et Dieu gentiment écarte la mer. Donc on croyait à ce moment-là que si on était un bon croyant, Dieu enlevait les difficultés devant nous. Dans le Nouveau Testament, on a une foi un peu moins naïve. La mer est toujours là, et donc on est toujours en train de naviguer comme on peut au-dessus des difficultés. Mais grâce au Christ, les choses qui nous entourent, cet environnement dangereux, ne nous menacent plus. Les puissances négatives de notre vie sont remises à leur place, et au lieu de remplir la barque jusqu'au point de nous menacer d'y couler, eh bien, le calme se fait. Et nous arrivons à flotter au-dessus des difficultés en ayant confiance et sans avoir peur. Donc ça, je comprends en gros. Mais néanmoins, le récit particulier de Marc a des particularités, des questions, des bizarreries qui nous incitent à aller plus loin et à comprendre un peu mieux ce que l'Évangile veut nous dire. D'abord, des questions, j'en ai une. Que se serait-il passé si Jésus n'avait pas été réveillé par les disciples? On dit qu'il dormait, la tempête allait submerger la barque, les disciples réveillent Jésus. Et s'ils ne l'avaient pas réveillé, est-ce qu'ils auraient tous coulé? Je garde cette question sous le coude pour l'instant. Ensuite, pourquoi Jésus nous est-il dit dormir à la poupe sur un coussin? Dans le fond, on s'en fiche un peu. Pourquoi devait-il être sur un coussin et à la poupe, pas ailleurs? Et puis surtout, et je commencerai par là, mais je garde mes questions, je les reprendrai. Pourquoi Jésus dit-il aux disciples, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Il leur reproche leur manque de foi. Et autrement dit, qu'est-ce que c'est cette foi qui manquait aux disciples? En fait, je trouve que cette critique est injustifiée. Les disciples, ils ont cru en Jésus. Quand il l'appelle pour lui dire « Seigneur, sauve-nous car nous périssons », n'est-ce pas un acte de foi? Il croit vraiment que Jésus peut les sauver. Ben moi, jusque-là, j'avais cru naïvement que c'était ça la foi. Et on entend dire dans les églises, d'ailleurs, un peu partout, que la foi chrétienne, c'est croire en Jésus-Christ comme mon sauveur. Ben là, ils y croient. Alors pourquoi Jésus leur reproche-t-il leur manque de foi? Et on a la même chose d'ailleurs justement en Matthieu 14, vous savez, quand Pierre sort de la barque pour marcher sur l'eau en allant vers Jésus, à un moment donné, il s'enfonce et pareil, il crie à Jésus, « Seigneur, sauve-moi !» Jésus lui tend la main et le relève et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pourtant, crier « Seigneur, sauve-moi !» à Jésus quand on se perd, n'est-ce pas a priori le summum de la foi? Et donc voilà, ça remet en cause tout ce que j'ai appris jusque-là. Peut-être que la foi n'est pas simplement cela, la foi n'est pas simplement croire en Jésus comme sauveur, mais peut-être qu'il y a autre chose là-dedans. Alors bon, je vous entends, vous avez bien écouté le texte et vous avez peut-être une petite idée pour contourner la difficulté, c'est que dans Marc, En fait, les disciples ne crient pas « Seigneur, sauve-moi ». Ça, c'est dans Matthieu et dans Luc. Dans Marc, les disciples n'appellent pas à Jésus, ils lui font des reproches. Et ils lui disent « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Donc, autrement dit, ils n'appellent pas à Jésus comme sauveur. Donc, on peut dire « D'accord, admettons que dans Marc, la foi des disciples n'était pas bien placée et elle comporte deux erreurs. » Donc, deux erreurs. La première, c'est qu'ils ne l'appellent pas « Seigneur », mais ils l'appellent « Maître ». Didaskalos, en grec, ça veut dire « prof », »,« professeur ». Bon, alors ça déjà, ce n'est pas une très bonne idée. Ce n'est pas une foi bien placée. Jésus ne nous sauve pas par ce qu'il nous enseigne, mais Jésus nous sauve parce qu'il est notre sauveur. Croire que Jésus serait celui qui nous sauve en tant que professeur, ce serait de dire que finalement il suffirait d'apprendre bien le catéchisme, et puis si vous croyez bien l'enseignement de l'Église, si vous croyez bien le dogme, si vous avez bien appris ce que dit l'Évangile, alors vous serez sauvés. Beaucoup de chrétiens ont dit ça. Mais ça, à mon avis, c'est faux. Nous ne sommes pas sauvés par notre connaissance, nous ne sommes pas sauvés par ce que nous croyons, juste ou pas juste, mais nous sommes sauvés par Jésus-Christ, parce qu'il nous aime et qu'il nous sauve. Deuxième erreur, qui fait que leur foi n'était pas bien placée, c'est qu'il dit « Seigneur, maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Donc il fait des reproches à Jésus. Et ça, parfois aussi, nous pouvons avoir tendance à le faire ou nous l'entendons. Que fait Dieu? Comment se fait-il que? Et si Jésus ceci? Et si Dieu cela? Pourquoi le mal? Pourquoi mes problèmes? Pourquoi mes épreuves? Alors Dieu, enfin. Et donc, toutes ces manières de remettre Dieu en cause, ce qui parfois évite de se remettre en cause soi-même, ce n'est pas une bonne idée. Vous savez, ce n'est pas la peine d'engueuler Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et en fait, il vaut mieux essayer de rentrer dans une relation confiante avec Dieu et de travailler avec lui. C'est quand même, à mon avis, une meilleure idée que d'essayer de se le mettre à dos. Encore que finalement, ça va marcher. Parce qu'ils engueulent Jésus, je vous l'ai dit, « Seigneur, cela ne fait-il rien que nous périssions ?» Mais dans le fond, Jésus va quand même se réveiller, va quand même calmer la tempête et va les sauver. Donc finalement, quand je vous ai dit « il ne faut pas gronder Dieu », ben écoutez, si vous le faites, c'est sûrement pas très bien, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Pourquoi? Parce que l'important, c'est d'entrer en relation avec Dieu. L'important, c'est de lui parler, si vous voulez. Et Jésus a dit « je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi ». Donc n'ayez pas peur, même si votre foi n'est pas bonne, même si vous vous trompez dans le dogme, même si vous n'avez pas la juste relation à Dieu, même si toute votre foi n'est pas positionnée comme il faut, tant que vous vous adressez à Dieu, tant que vous parlez au Christ, il vous sauvera. « Je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi », Jésus ne dit pas, « je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi, à condition qu'il croie bien comme il faut, qu'il ait une foi juste, qu'il ne m'engueule pas, etc. » Non, « quiconque vient à moi, je l'accueille. » Et je le sauve. Donc finalement, oui, voilà, quelle que soit votre théologie, ça va. Et puis d'abord, les disciples, certes, ils engueulent le Christ, mais en disant « cela ne te fait-il rien que nous périssions ?», ils disent que dans le fond, ils pensent qu'il est capable de les sauver. Donc ils croient quand même en Jésus-Christ sauveur. Donc moi, je trouve que non, les disciples avaient peut-être une mauvaise foi dans Marc, mais il ne manque pas de foi. Et puis d'ailleurs, dans Matthieu et dans Luc, les disciples appellent simplement à Jésus tout à fait comme il faut. Ils disent « Seigneur, sauve-nous » et Jésus leur fait le même reproche de manquer de foi. Donc la piste foi mal placée, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas ça que reproche Jésus, je ne pense pas. Alors en quoi est-ce que les disciples ont manqué de foi? Si ce n'est pas au moment de l'appel, ben c'est qu'a priori, ça doit être avant. Et avant, on nous dit qu'ils ont eu peur. Ah tiens, c'est peut-être ça. Peut-être que justement, ce que l'on pointe dans leur manque de foi, c'est qu'ils ont eu peur. Oui, d'ailleurs, c'est très possiblement ça, parce que Jésus, quand il s'adresse à eux, leur reproche leur manque de foi, mais leur dit aussi « Pourquoi êtes-vous peureux ? Pourquoi avez-vous eu peur ? N'avez-vous pas la foi ?» Et donc Jésus associe bien les deux. Voilà une première piste qui me semble la plus intéressante. La foi s'oppose à la peur. Oui, parce que la peur n'est pas une bonne chose. Peur, ben, c'est pas une bonne chose. La peur, non pas comme juste conscience du danger, qui est évidemment du bon sens, ou la crainte de Dieu, qui est une bonne chose, la crainte révérente de Dieu, c'est le respect dû à Dieu. D'ailleurs, le texte, vous savez, c'est pas clair. Si vous le relisez, il reproche d'avoir peur, et juste après, on dit « ils craignèrent Dieu ». Alors, bon, mais c'est pas la même crainte. Là, la peur que reproche Jésus, c'est vraiment la couardise, le fait d'être peureux, c'est une peur idiote, si vous voulez, avoir peur de tout. Et quand Jésus dit, il le dit sans arrêt, « n'ayez pas peur », on le répète souvent, le « n'ayez pas peur » comme une chose absolument essentielle du message de la Bible, de l'Évangile. On dit que ce « n'ayez pas peur », on l'a 365 fois dans la Bible. Je suis sûrement faux, mais l'image est belle, pourquoi pas, une fois par jour. Jusqu'à présent, je l'ai toujours compris en disant « n'ayez pas peur parce que votre bon Jésus est avec vous, donc il veillera sur tout, donc ayez confiance que le Christ vous sauvera toujours au mauvais moment, quand il faudra, il sera là. » Ce « n'ayez pas peur » et de dire « vous auriez des raisons d'avoir peur, mais Jésus vous sauvera. » En fait, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Dans ce texte, ce n'est pas ça. Ce « n'ayez pas peur », on peut le comprendre autrement, et on peut le comprendre dans le sens de « soyez courageux », c'est-à-dire évitez déjà la peur, la couardise, ne soyez pas peureux. Oui, parce que je crois que pour être chrétien, déjà il faut du courage, il faut de l'audace. Pour être chrétien, il faut savoir oser, il faut se lancer si vous voulez. Et on ne peut pas rester chrétien et rester toujours frileusement enfermé dans son coin en ayant peur de tout. Si vous avez peur de tout, vous ne ferez jamais rien. Donc, ayez le courage. Comme Pierre, encore lui, quand il marche sur les eaux, je voulais citer ce texte que je ne vous ai pas lu, mais vous le relirez. En Matthieu, quand Pierre marche sur l'eau, justement, voilà l'exemple de la foi. Il sort de la barque et il marche sur l'eau vers Jésus. Quelle audace ! Ça, c'est la foi. Merveilleux. Et donc, c'est le courage d'oser. Et c'est pour ça que je vous ai lu tout à l'heure, dans l'Épître aux Hébreux, ce chapitre 11, où ce grand chapitre qui parle de la foi et qui montre tous ces exemples de foi des patriarches et des personnages de l'Ancien Testament. Et il dit, la foi, c'est comme Abraham, qui justement quitte son pays, sa maison, et va vers un pays qu'il ne connaissait pas. Quelle audace ! Il ose, il y va, il fonce. On y va, on n'est pas en train d'avoir peur de tout. Ou comme Noé, qui fabrique une arche, et il y va, il fonce, il met dessus les lions, les girafes, tout ça, il va sur son arche, et il y va. Ça, c'est la foi. La foi de l'entreprise, du courage, d'oser avancer sans avoir peur de son ombre. Et d'ailleurs, le chrétien ose, et ça demande du courage d'être chrétien. Déjà, la conversion. Conversion, le fait d'être chrétien. Il faut du courage pour dire « je veux être chrétien ». Et combien de fois je rencontre, je ne jette pas la pierre, mais je rencontre des gens qui me disent « oh, tout ce que vous dites c'est formidable et en fait moi ça me plaît, j'aimerais bien être chrétien ou être protestant, mais voilà, c'est compliqué, je suis comme ça ». Bon, j'en sais rien, je ne vais pas juger les histoires des autres. Mais j'ai envie de leur dire « mais écoutez, zut ! Courage dans votre vie, une fois ou l'autre. Osez être vous-même, osez avoir une opinion, osez vous lancer, osez croire, osez agir, osez sortir de chez vous, osez aller vers l'autre, osez vous combattre dans ce monde et osez vous relever quand vous êtes par terre. Il faut avoir du courage dans la vie. » Et ça me fait penser à ce merveilleux livre que je vous recommande du théologien Paul Tillich, qui est un de mes maîtres un spirituel, qui a écrit un livre qui s'appelle justement « Le courage d'être ». The Courage to Be, écrit en anglais. C'est un Allemand qui a fui le nazisme. Le courage d'être, voilà. Eh bien, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça dans la foi. La foi, c'est le courage d'être, et pas juste d'attendre comme un petit enfant que Jésus vienne me sauver. Le courage. Alors, ça c'est vrai, mais peut-être que ça n'est pas tout. Le manque de foi des disciples, on peut le voir là-dedans, c'est vrai, et ça me plaît, mais il y a peut-être autre chose. Peut-être parce que Luc, dans l'évangile de Luc, eh bien, il n'y a pas cette mention « Pourquoi avez-vous peur ?» Et l'évangile de Luc ne parle pas du tout de la question de la peur, mais simplement Jésus leur reproche quand même leur manque de foi. Donc il faut trouver autre chose. Et l'autre chose, eh bien, le seul point que je vois, c'est qu'ils aient laissé Jésus dormir. Voilà le problème, Jésus dort. Et ça, c'est une erreur, avoir laissé Jésus dormir. Ça, c'est un problème lorsque Jésus est là, et c'est très pervers, hein, vous voyez, lorsque Jésus est là, mais qu'il sommeille et qu'il ne sert à rien. Le problème, c'est que les disciples, finalement, ils ont cru surtout dans leurs compétences. Ils se sont dit, nous, on est des bons marins, on va se débrouiller. Jésus, on le met dans le fond, là-bas, il sera très bien, en dessous de la cale, et puis, nous, je gère mes affaires moi-même. Eh oui, mais Jésus, dans le fond de la cale, il sert à rien. Et combien de chrétiens, dont moi, finalement, on est content parce qu'on a notre petit Jésus dans le fond de notre cale, si vous voulez, mais on lui demande surtout de ne pas prendre trop de place, autrement dit. Hein. Mais il est là, je suis chrétien, moi j'aime bien, j'ai ma Bible, elle n'est pas loin de mon lit, même si je ne la lis pas, mais il est pas loin. Donc ce Jésus pas loin et qui dort. Et je pense que moi je vais m'en sortir moi-même pour gérer mes affaires. Mais ça ne marche pas tant que ça. Finalement, ils ont foi, ces disciples, mais surtout foi en eux. Et le courage dont je vous ai parlé, c'est très bien, mais en même temps, il faut aussi connaître ses limites et savoir qu'on n'est pas tout-puissant et qu'on n'est pas tout-puissant par rapport à tout ce qui peut arriver dans notre vie. Et donc, il y a effectivement des tas de choses qui sont compliquées et nous ne gérons pas tout. Mais nous avons une botte secrète, oui, c'est Jésus, bien sûr, mais encore faut-il qu'il soit réveillé. Si Jésus dort, c'est comme s'il ne faisait rien. Il est inactif. Et si on a la foi dans un Jésus endormi, on risque vite d'être submergé par les vagues de l'existence. Et donc voilà, nous devons réveiller notre foi, réveiller notre Jésus, ressusciter, dirais-je même, le Jésus qui est en nous. Alors ça, méfiez-vous, parce que quand on ressuscite Jésus, parfois on se fait soi-même un peu engueuler, hein, parce que Jésus, il les sauve et puis il leur fait la leçon. Oui, c'est vrai, l'Évangile est une bonne nouvelle, mais c'est aussi une remise en cause, aussi un questionnement, et finalement Jésus est beaucoup moins dérangeant quand il dort dans le fond de la cale que quand il vient causer avec nous. Mais en même temps, bah oui, mais on ne peut pas tout avoir. Et donc Jésus dort, et Marc précise cela d'une façon absolument remarquable. Il dit que Jésus dormait dans la poupe et sur un coussin. Je dis bien « dans », alors que nos traductions mettent « à la poupe », mais non, ne dormez pas « à la poupe », mais « dans la poupe ». Parce qu'on a retrouvé des barques de Tibériade, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, des grandes barques de pêcheurs, et on a vu qu'effectivement, les bateaux à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière du bateau, il y avait la personne qui tenait le gouvernail. Alors, si Jésus est à la poupe, j'aurais très bonne idée, Jésus tient le gouvernail, génial, c'est ça qu'il me faut, moi, un Jésus qui gouverne. Ben oui, mais là, il dort. Bon, alors, il sert à rien. Cela dit, il n'est même pas à la poupe, le texte dit bien, il est dans la poupe. On sait que dans ces grandes barques, il y avait un espace en dessous du gouvernail. Et donc, voilà, nous mettons Jésus, il dérange, il nous empêche même pas de gouverner nous-mêmes notre vie, et il est en dessous, il dérange personne, et comme ça, on l'oublie. Jésus, peut-être que la première erreur, c'est de l'avoir mis effectivement à la poupe, derrière. Parce que moi, je l'aurais bien vu devant. Si vous voulez, j'ai ma barque, Jésus devant, comme figure de proue. Ah voilà, ça aurait été une belle idée. Jésus qui est devant, lui qui nous indique le chemin et qui nous précède. Et mettre Jésus derrière, De toute façon, c'est une erreur. Parce que c'est pas lui qui va tenir notre gouvernail. Nous sommes responsables de nos choix et de notre vie. Mais cela dit, là, il est à l'arrière, il tient, mais comme je vous le dis, il ne tient pas le gouvernail, il empêche même pas les marins de gouverner à leur guise, mais il est enfermé au fond. Mais peut-être que par ailleurs, la poupe, c'est l'arrière. Et ce Jésus qui est à l'arrière et qui ne sert plus à rien, ça me fait penser peut-être à un autre piège dans notre vie possible. C'est ce Jésus qui est relégué dans le passé de notre vie. Oui, dans ma vie en arrière, Jésus a eu une certaine importance, mais je relègue Jésus dans ce qu'il était autrefois. Et puis finalement, j'ai laissé Jésus s'endormir. Alors je l'aime bien, mais il dort. Ça, c'est pas une très bonne idée. Mais pas de panique, une fois de plus. Même si Jésus est un peu en arrière, vous pouvez le réveiller. Il sera toujours là avec vous pour vous sauver. C'est déjà bien qu'il soit là dans la barque, si vous voulez, même s'il dort, donc pas de panique. Votre Jésus dort et vous vous sentez un peu coupable, je suis désolé. Mais il est là, et donc il n'y a qu'un mot à dire pour qu'il se réveille. Ça, c'est ce que je dis à mes catéchumènes, parce que quand ils ont 15-16 ans, je sais bien que ce Jésus qu'ils confessent en confirmant ne sera pas toujours leur compagnon le plus vivace dans leur existence et que finalement, eh ben c'est pas grave. Je leur dis la seule chose, gardez-le même endormi dans votre barque. Et si vous gardez un lien, une relation avec l'Église, avec la foi, avec la communauté, avec la Bible, avec les pasteurs, avec qui vous voulez, gardez un lien et alors ce Jésus, même s'il dort, il est là, pas loin, et il n'y aura qu'un mot pour qu'il se réveille. Peut-être que, évidemment, vous ferez comme les disciples et vous vous souviendrez qu'il existe le jour où vous en aurez besoin. Oui, on est un peu tous comme ça, si vous voulez. C'est pas nouveau, vous le voyez bien. Hein. Mais c'est mieux, évidemment, si Jésus reste toujours vivant et en vie, d'accord. Mais c'est pas très grave. Mais en tout cas, gardez le contact et vous pouvez le réveiller à tout moment. Et l'autre image que j'ai dans ce Jésus enfermé dans le passé, c'est, vous savez, on dit que le Jésus est la parole même de Dieu. Jésus est l'incarnation de la parole. Jésus, c'est l'enseignement, c'est l'évangile. Et là, la parole, elle devient morte si on la laisse s'enfermer dans le passé. Alors là, je ne me sens pas menacé, enfin, tout à coup, parce que moi, je n'enferme pas la Bible dans ce qu'elle était il y a 2000 ans. Et justement, mon travail, et ce que je fais là avec vous, c'est de prendre cette parole antique et d'essayer de lui redonner vie. Mais là, j'accuse les fondamentalistes et ceux qui disent « Il ne faut rien toucher à la parole, c'est écrit, c'est la parole de Dieu, donc il est écrit que Dieu condamne ceci et cela, donc ça reste vrai, sola scriptura, respecter l'écriture. » Eh bien, ces gens-là sont des gens qui prennent ce Jésus de la parole, qui l'enferment à fond de cale. C'est en arrière, il y a 2000 ans, et on le laisse enfermé, on n'ouvre même plus la Bible, on ne la discute pas, on ne la commente pas, simplement on croit et on applique. Et bien là, ce n'est pas du tout la bonne solution. Jésus, il faut le faire sortir de sa boîte, il faut actualiser le texte, et il faut venir se frotter avec lui, discuter avec lui, le secouer, comme font les disciples, et ils ont eu raison, et se laisser secouer par lui. Et puis, plus compliqué encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus qui dort sur un coussin. Alors pourquoi sur un coussin? Alors là, les commentateurs passent rapidement, ils disent bon, c'est qu'il dormait bien. Bon, t'es bien. Enfin. Alors là, j'imagine le Christ confortablement installé sur un coussin doré. Et c'est vrai que là, il y a un vrai danger aujourd'hui. Ce Christ endormi sur un coussin de velours. Le Christ qui s'endort sur les velours pourpres de nos autels, de nos chaires, de nos liturgies. Le Christ qui s'endort sur les fastes de l'Église. Le Christ qui s'endort dans le confort de nos liturgies. Et finalement, là où nous prétendons mettre Jésus à l'honneur, en disant « je vais le mettre sur un beau coussin », eh bien, il est en danger. Parce que Jésus n'est jamais sur un beau coussin. Il est debout, si vous voulez. Et Jésus n'est jamais actif quand il est enfermé. Jésus n'est pas dans le confort, mais il est dans le combat, dans le dialogue, dans la discussion. Donc, non, danger, effectivement, de nos coussins confortables. Et puis d'ailleurs, le texte ne dit pas coussin. Ça, j'ai vu. Vous savez, je vais toujours chercher le texte original. Le mot qu'il y a là, c'est proskephalaion. Pros, ça veut dire dessus, et kephalaion, ça vient de kephalé, la tête. Et donc, ce n'est pas un coussin, c'est un oreiller, un pour la tête. Et donc, et d'autre part, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que les oreillers du temps de Jésus, ce n'était pas comme les vôtres. C'était une chose pour poser sa tête. Donc ça n'était pas un coussin, un mou coussin plein de plumes d'oie rebondies. Les oreillers, ça pouvait être une simple pièce de bois qui permettait de tenir la tête au-dessus de l'épaule pour que la tête ne tombe pas. Ça pouvait être une simple pierre. Comme Jacob, quand il fait le rêve avec l'échelle, il dormait la tête sur une pierre et il prend cette pierre qui lui servait d'oreiller pour faire un autel, pour adorer Dieu. Ou ce peut être aussi, vous savez ce que dit Jésus, quand il dit « Les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des terriers, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Donc voilà, Jésus n'a pas d'oreiller. Voilà le manque de foi des disciples. Ils lui ont donné un oreiller. Jésus n'a pas d'oreiller parce que Jésus n'est jamais endormi et Jésus ne se laisse enfermer dans rien. Et la foi est menacée quand nous enfermons Jésus justement en lui disant « Surtout, reste là tranquille, ne bouge pas, ne dérange personne » et qu'on se le garde enfermé dans son petit coffre à soi pour nous tout seuls. Et voilà, j'ai mon Jésus, ma foi, mon temple, ma doctrine, ma lecture de la Bible et je l'enferme pour moi tout seul dans le fond de la cale et je lui mets un oreiller pour qu'il ne se réveille pas. Là, c'est extrêmement dangereux. Parce que Jésus a bien dit « Les renards ont des terriers, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. » Jésus, en aucun cas, ne peut se laisser enfermer quelque part. Jésus ne peut pas vivre en captivité, sinon il s'endort. Comme ce bel oiseau multicolore, le Quetzal, dont on dit qu'il ne peut pas vivre en captivité, qui est l'exemple même, justement, de celui qu'on ne peut pas enfermer. Donc Jésus, on ne peut pas l'enfermer. Et il faut justement garder ce sens absolument essentiel d'un Jésus qui est toujours libre et qui sort toujours de là où on veut le mettre. D'ailleurs, on a une autre référence. Au début, je croyais que ça n'avait pas de rapport. J'ai évidemment cherché où est-ce qu'on parlait de ce proskephalaion dans la Bible. Je pensais que ça n'avait aucun rapport. On le trouve, en fait, dans Ézéchiel 13, où Ézéchiel dénonce les idolâtres. Et il dit « Vous mettez vos idoles sur des coussinets, proskephalaion. » Et en fait, c'est pas bête ça. Lorsque justement le coussin, là où l'on dépose une idole pour l'adorer. Je garde ce sens. Danger lorsque Jésus devient comme un talisman. Il y a dans les 10 commandements « Tu ne te feras pas de représentation de Dieu pour l'adorer. » Et il y a un nombre de chrétiens, pas vous, qui adorent finalement non pas Jésus-Christ, mais ce qu'ils en disent. Et il y a ceux qui adorent non pas le Christ vivant, si vous voulez, mais la christologie qu'ils ont, le discours qu'ils ont sur Dieu. Ils se font une idée de Jésus et disent « c'est ça Jésus » et ils le mettent sur un coussin pour l'adorer comme une idole. Eh bien non, ça n'est pas bon. Et donc tous ceux qui critiquent, je dirais, votre théologie ou la mienne, en disant que vous ne croyez pas comme il faut, vous ne croyez pas juste suffisamment dans la résurrection, dans la Trinité, dans la naissance virginale, etc. Tous ces gens-là enferment Jésus dans une doctrine et ils adorent non pas Jésus, mais l'image qu'ils s'en font. Alors ça, c'est vraiment une très mauvaise idée parce que ça tue Jésus. Mais donc, on peut le réveiller. Le réveiller, c'est pas si simple. On voit d'ailleurs dans le texte que il le réveille deux fois. Ils réveillèrent Jésus, il se passe quelque chose, et ensuite on dit « Jésus se réveilla et il parla au vent ». Donc il se réveille deux fois. Ça me montre déjà que c'est pas très simple. Donc je vous préviens, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas compliqué. Si vous avez besoin de Jésus, réveillez-le et il sera là. Peut-être qu'il faut l'appeler quand même 2-3 fois. Pas immédiat, il y a un peu de patience. Mais surtout, vous disais-je, que se serait-il passé s'il ne l'avait pas réveillé? Alors d'habitude, tout le monde me dit, mais en fait, il n'y aurait rien eu, ils avaient peur pour rien, si vous voulez, Jésus juste, il les calme gentiment, voilà, parce qu'ils paniquaient, et que leur erreur, c'est d'avoir paniqué pour rien. Je ne crois pas que ce soit le cas, mes amis, mais pas du tout, hein, parce que Jésus, quand il se réveille, ne dit pas aux disciples, allons, c'est rien, ayez confiance, vous allez voir, tout va bien aller. Jésus, il dit, bah ouais, c'est vrai, il y a panique à bord. Calme le vent et la tempête, hein. Il n'agit pas sur les disciples, il agit sur les événements, sur les éléments. Donc moi je pense que la tempête était réelle, que le danger était réel. Et donc si les disciples n'avaient pas réveillé Jésus, Jésus serait mort avec eux. Voilà. Il y a un enjeu considérable. Si votre foi périt, si vous oubliez Jésus à fond de cale, eh bien, Jésus disparaîtra avec vous. Alors, individuellement, c'est dommage pour vous. C'est pas très grave, parce que peut-être que d'autres gens ont un Jésus vivant. Mais si, dans l'humanité, plus aucun chrétien ne croit en Jésus, il n'y aura plus de christianisme et il n'y aura plus de Christ, bonne nouvelle, dans le monde. Donc, nous sommes responsables, en fait, de maintenir Jésus vivant dans ce monde pour que la foi du Christ soit proclamée. Nous sommes les luminaires, les porte-lumière de cette parole du Christ. Et là, se joue quelque chose de beaucoup plus essentiel peut-être que vous pensez. Parce que Jésus dort et il le réveille. Mais le sommeil, dans la Bible, est aussi un mot qui désigne la mort. Par exemple, quand dans l'histoire de Lazare, dans Jean, Jésus dit « Jésus dort ». Et les disciples disent « Ah ben, il va se réveiller ». Non, non, il est mort. Il parlait du sommeil de la mort. Donc le sommeil, c'est la mort. Et puis quand il le réveille, diegairein en grec, c'est le mot utilisé pour parler de la résurrection. Donc Jésus, dans ce texte, meurt et ressuscite. Incroyable, c'est beaucoup plus important que vous ne pensez. Jésus meurt chaque fois que nous le laissons s'endormir. Chaque fois que, comme Pierre, nous le renions en disant « je ne le connais pas », nous envoyons Jésus sur la croix. Chaque fois que, comme les disciples, nous abandonnons Jésus en courant au moment de l'arrestation, eh bien, nous mettons Jésus mort. Et Jésus ressuscite, eh bien, quand nous le réveillons, le réveil du Christ, si vous voulez, la résurrection du Christ, pardon, ce n'est pas un spectacle auquel nous assistons comme au XVIIe siècle, le lever du roi, on assiste au lever du roi, on assiste à la résurrection et à Pâques, on se dit c'est de la chance, Jésus ressuscite. La résurrection du Christ, c'est un événement en vous, pour vous, et dont vous êtes même les acteurs. C'est une expérience qui nous sauve. Et donc nous devons sauver Jésus qui est en nous, et en sauvant le Jésus qui est en nous, nous nous sauvons nous-mêmes. Nous devons sauver Dieu dans notre foi, et en sauvant Dieu, nous nous sauvons nous-mêmes. Ça peut paraître bizarre, mais c'est pourtant un grand thème de la liturgie juive, la liturgie des rameaux de Shavuot, dans la fête de Soukhot, le dernier jour de la fête des rameaux, voilà, qui s'appelle le jour du grand Hosanna, où les Juifs font une procession avec des rameaux jusqu'à l'autel du temple, et là ils crient « Ani vahu Oshiana ». Oshiana, ça donnait Hosanna. Ani vahu, ça veut dire « moi et toi, sauve donc ». Et les Juifs crient à Dieu « moi et toi, sauve donc ». C'est-à-dire « sauve-nous et sauve-toi toi-même ». Donc voilà, il faut sauver Jésus pour que nous puissions nous-mêmes nous sauver. Avec cette information supplémentaire, c'est qu'il nous appartient d'être les déclencheurs, les moteurs de la résurrection du Christ. Et Jésus ressuscitera si nous le réveillons par nos chants, par nos prières, par nos paroles, par nos appels, par nos cris, fussent-ils maladroits, fussent-ils même faux d'un point de vue doctrinal, peu importe. Dès que vous parlez à Jésus, il se réveille, il vous répond et il vient à vous. N'ayez pas peur, frères et sœurs, ayez du courage et au-delà de tout, sachez que votre Sauveur est présent dans votre vie Et même s'il dort, même s'il est pour l'instant un peu enfermé dans un coin, parlez-lui, sortez-le de sa grotte, de son trou, de son autel, de sa liturgie, de ce que vous voulez, de son tabernacle. Sortez-le de là, mettez-le avec vous comme un compagnon de route, parlez-lui, alors il se sauvera lui-même et il vous sauvera. Amen.